aujourd'hui Marc Blanchard. Marc Blanchard habite Rochefort. Et vous rappelez que certains, vous savez que certains d'entre vous, vous rappelez pas, vous savez que certains d'entre vous sont allés à Rochefort l'an dernier pour une excursion. Marc, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour la troisième fois et les adhérents se souviennent de votre invocation des canaux de Suez et de l'histoire mouvementée de la belle ville d'Alexandrie. Aujourd'hui, nous avons l'impression que vous voulez concurrencer notre président qu'il y a à peine 2 jours a présenté son plan pour améliorer la gestion de l'eau. Est-ce que je me trompe? Autant dire que vous êtes en pleine actualité. Et en même temps, vous avez remarqué, vous allez nous montrer que la volonté de gérer la maîtrise de l'eau n'est pas nouvelle. Et vous allez prendre pour exemple l'Égypte. Mais évidemment, vous irez beaucoup plus loin et vous nous parlerez d'autres pays qui sont en effet en situation de difficulté. Eh bien Marc, vous voyez que l'eau intéresse tout le monde, la salle est pleine et nous allons vous écouter.
Bien, bien. Vous avez raison d'applaudir votre présidente. Je sais que le rôle des bénévoles est délicat à assumer et l'accueil ici de sa part et de la part de toute l'équipe est à la hauteur donc de la réputation de votre UTL. Eh bien oui, je vais vous parler donc d'un thème ô combien d'actualité, même si j'ai commencé à le travailler en amont, en avance, parce que mon épouse et moi, nous avons séjourné 5 ans pour des raisons professionnelles en Égypte. Nous nous sommes passionnés du pays et je voudrais donc encore un temps partager avec vous cette passion donc sur un sujet qui a été une préoccupation d'emblée de la part des Égyptiens depuis la plus haute antiquité. Et je voudrais donner au problème, donc qui nous concerne également maintenant, une dimension historique. Je crois qu'elle aide à comprendre un certain nombre de choses et peut-être à anticiper quelque peu, car cette actualité va nous concerner de façon durable. Une toute petite précision, il aurait presque fallu que j'ajoute un qualificatif au titre « Maîtrise et accès de l'eau douce ». L'eau douce, évidemment, c'est-à-dire 1% de l'eau sur Terre. Vous voyez, finalement, c'est assez peu, n'est-ce pas? Alors, d'emblée, l'Égypte présente une particularité évidente, c'est un pays désertique. Regardez cette image satellite, elle date d'une 20aine d'années, mais elle pourrait encore être d'actualité. C'est un pays totalement désertique, à l'exception d'une bande verte qui se termine par un triangle également de la même couleur. Vous avez évidemment reconnu la vallée du Nil et le delta du fleuve qui vont jouer un rôle absolument crucial pour le pays. Lorsque le premier historien géographe considéré comme tel, en tout cas Hérodote grec, est venu au 5e siècle avant notre ère visiter l'Égypte, qui avait une réputation, à juste titre d'ailleurs, hein, même auprès des Grecs, assez extraordinaire, eh bien, il a prononcé cette phrase qui est devenue un cliché, hein, mais que je trouve tout à fait pertinente, l'Égypte est un don du Nil. Sans le Nil, l'Égypte serait totalement désertique. Alors, lorsque l'on déambule dans la vallée du fleuve, eh bien, la végétation est luxuriante. Vous avez tout ce qu'il faut pour que cette végétation pousse. Le soleil, J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont allés pour des raisons touristiques généralement en Égypte. Le soleil est bien présent, pratiquement tout le jour, tous les jours. Et l'eau du fleuve et enfin la terre. La terre extrêmement fertile, le limon que le fleuve a apporté pendant des millions d'années, crue après crue, chaque année. Donc, lorsque un ingrédient manque, et généralement c'est l'eau, lorsque l'eau ne parvient plus au terrain, eh bien c'est brutalement le désert. Ça c'est vraiment fascinant. Quand vous allez en Égypte, en l'espace de quelques décimètres, 20 décimètres, vous passez de la luxuriance au désert absolu. Tout simplement parce que on n'irrite plus à cet endroit-là, donc plus rien ne pousse. Le delta. Alors le delta, eh bien écoutez, ce n'est pas un relief tout à fait périgourdin, c'est plat. La platitude à 360 degrés. Et voici donc des photos du delta. Là ici vous voyez un fella qui est avec toute sa toute sa fortune. Oui, mais je crois que le film, la personne qui filme, souhaite que ça reste. Oui. Non, mais il y a toujours de bonnes raisons. Alors, le fella, ben, vous voyez, il est sur ce âne et il a pour l'essentiel sa fortune, une vache souvent maigrelette et puis une chèvre, et il va essayer de les faire brouter sur un terrain relativement public. Voici une scène tout à fait normale. Un couple revient du marché, vous voyez l'homme 20 mètres devant, les mains dans les poches, et son épouse 20 mètres derrière qui porte les cabas. Je ne commenterai pas davantage cette image. Là, c'est une photo assez classique, les pigeonniers. Il y a des pigeonniers, mais qui sont ancestraux, qui sont multiséculaires dans le delta. Et là, une image beaucoup plus moderne, puisque l'irrigation se fait de façon mécanique. Donc, trois images classiques et une beaucoup plus moderne. Alors, le bassin du Nil est un bassin, vous voyez, près de 7000 km de long, plus de 3 millions de kilomètres carrés. Il a un seul rival sur Terre, c'est le bassin de l'Amazone. Mais c'est les seuls points communs qu'ils ont, car ces fleuves sont totalement différents. Alors, il concerne une dizaine de pays, mais trois, pour l'essentiel, en aval, à la bouchure, à la fin du fleuve, l'Égypte, le Soudan au milieu, et ici, l'Éthiopie, parce qu'une partie du plateau éthiopien voit la source du Nil bleu. Tout simplement. Alors, ce bassin est peuplé à l'heure actuelle de 450 millions d'habitants. Vous voyez les projections en 2050 ? 1 milliard d'habitants. C'est... Je cherche mon qualificatif, mais c'est assez fascinant. Hein. C'est une explosion démographique avec toutes les conséquences géopolitiques que l'on peut imaginer. Le Nil égyptien est en fait constitué de deux Nils, deux fleuves qui se rejoignent, c'est ce qu'ont décidé les géographes. Le Nil bleu, donc, disais-je, qui provient du plateau éthiopien, et le Nil blanc de l'Afrique équatoriale. Le Nil bleu sourd du lac Tana, qui est le plus grand lac naturel en Éthiopie, et le Nil blanc, donc, des deux grands lacs africains d'Afrique équatoriale, que sont le lac Victoria et le lac Albert. Et ils se rejoignent, leur confluent, à Khartoum, et la ville de Khartoum, capitale du Soudan, a été construite précisément pour cette raison, parce que c'était le confluent du Nil bleu et du Nil blanc. Alors, pour bien comprendre le Nil égyptien, il faut lire ce diagramme qui représente mois par mois le débit global du Nil égyptien. Et alors, vous avez des traits noirs. En dessous du trait noir, c'est la contribution du Nil blanc. Vous voyez qu'elle est assez régulière, avec un légère crue, si je puis dire, pendant le printemps, et un léger étiage pendant l'été, les saisons sèches. Quoi de plus normal? Regardez le Nil bleu. Le Nil bleu, lui, c'est tout à fait le contraire. Sa contribution est presque nulle au printemps, la saison relativement humide, et il explose littéralement dans une crue considérable, notamment pendant les mois les plus chauds, ça se termine, ça dure à peu près 6 mois, du mois de juillet au mois de janvier, avec un pic absolu au mois de septembre, et une contribution des mois d'août et d'octobre absolument considérable. Alors, ceci, il y a 50 siècles, quand les Égyptiens, au début de la civilisation pharaonique, eh bien, c'était comment expliquer ce phénomène miraculeux? Une seule explication, c'est la volonté des dieux. Bon, maintenant, on en a une autre. Les géographes en proposent une autre. Je vais vous la livrer et vous choisirez. Le Nil bleu met très longtemps. La mousson tombe sur le plateau, la mousson africaine tombe sur le plateau africain, et le Nil bleu met deux bons mois, à atteindre l'Égypte, parce que le cours du Nil est très en douceur, si vous voulez. Et donc, la mousson africaine qui tombe bien au mois de mars, février, mars, avril, ne provient en Égypte que de façon différée au moment de la saison sèche. Alors, voici une photo des sources du Nil bleu. Quand j'ai vu cette photo en préparant la conférence, je me suis dit que le géographe qui avait qualifié de bleu le Nil devait être quelque peu daltonien, hein, parce que le bleu orangé est assez original, n'est-ce pas? Effectivement, c'est le limon qui est arraché au plateau éthiopien, et après cette chute spectaculaire, hein, eh bien, le Nil va couler, mais tout à fait en douceur, dans une pente très très douce, sur 2500 km, jusqu'à la Méditerranée, jusqu'au delta, ce qui fait que le limon va se déposer petit à petit, très très progressivement, le long du cours du fleuve. Voici une photo du confluent. Là, ici, c'est le Nil blanc, qui provient d'Afrique équatoriale, ici le Nil bleu, donc ça a été pris manifestement au printemps, parce que la contribution du Nil bleu est moins forte que la contribution du Nil blanc, et au confluent, je vous ai dit que la ville de Khartoum s'est construite, c'était la volonté d'ailleurs des Anglais quand ils dominaient le pays, d'installer une ville et la capitale du Soudan là. Alors, le phénomène de la crue pendant des millions d'années va concerner l'Égypte. Et cette crue, eh bien, les photos datent de quelques décennies, parce que vous savez sans doute que c'est fini, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Hein. Le phénomène de la crue n'existe plus, mais pendant très longtemps, évidemment, il a concerné l'Égypte, y compris des quartiers du Caire, mais qui avait été construit de façon ad hoc, tout à fait pour supporter les crues. Évidemment, quand les crues étaient catastrophiques, cela pouvait avoir quelques conséquences néfastes pour les immeubles, mais ils étaient tout à fait construits pour prévoir, recevoir cette crue. Alors, tout le problème, l'eau est là, donc il faut essayer de la recueillir pour pouvoir la garder un certain temps, et le gros problème, c'est l'irrigation, l'utilisation. C'est l'irrigation pour, évidemment, la production agricole. Alors, l'oued de Garawi, qui est situé à peu près une 30 km au-dessus du Caire, qui désormais, quand nous le visitions, est totalement sec, il n'y a plus une goutte d'eau qui circule dans cette oued, mais il y a 5000 ans, eh bien, encore cette oued pouvait dans cette oued pouvait circuler, dans cette vallée plus exactement, pouvait circuler de l'eau au moins de temps en temps, comme le font les oueds d'Afrique du Nord. Eh bien, les Égyptiens ont construit un barrage, vous voyez, avec des moellons, hein, un barrage, et ce barrage est considéré comme, pour les, au moins pour les Égyptiens, comme le premier bâti par l'humanité. Il y a un rival en Mésopotamie, également les Mésopotamiens, à peu près à cette même époque, ont construit également un barrage. Je ne dirai pas lequel est antérieur, lequel, ça, c'est une question annexe, il n'y a pas beaucoup d'importance, mais au moins on commençait à construire des barrages pour provoquer un lac de retenue derrière et recueillir un temps l'eau qui pouvait tomber localement. Il se trouve que vers les années 2500 avant notre ère, eh bien, il y a dû sans doute y avoir une pluie absolument catastrophique. L'eau accumulée derrière le barrage a été excessive et ça a provoqué une rupture du barrage. Les Égyptiens n'avaient pas encore prévu un canal de dérivation pour évacuer l'eau en surplus. Bah, c'était un prototype, hein, c'était, il fallait bien essayer un certain nombre de choses et puis après, bon, on a pu améliorer ce genre de pratique. Mais alors donc voici le premier barrage construit en Égypte. Sinon, tout le problème, je vous ai dit, c'est l'irrigation. Eh bien, le premier outil, au sens très rudimentaire du terme, utilisé par les Égyptiens, c'est le mental. Alors, le mental, c'est tout simplement, vous voyez, un panier de matière végétale tressée que deux hommes, donc à l'aide de cordelettes, remplissent d'abord d'eau, et puis on le hisse sur quoi, 60-70 centimètres pour le déverser dans des rigoles qui vont conduire l'eau dans les champs avoisinants et permettre l'irrigation. Après le mental est apparu le chadouf. Alors le chadouf, c'est essentiellement un grand piquet avec un contrepoids qu'un seul homme actionne, et là encore, vous voyez un panier de matière végétale que l'on remplit, et une fois rempli, eh bien, on le déverse dans des rigoles, donc, même fonction que tout à l'heure. Les mentals et les chadoufs étaient encore utilisés au début du XXe siècle. Parce qu'en Égypte, il y a une particularité, quand il y a une innovation qui est supérieure à la précédente, là ici, un seul homme fait le travail de deux hommes, en fait, hein, précédemment, eh bien, on garde quand même la tradition de la précédente. Après, le chadouf, sont apparus les norias, que les Égyptiens appellent les sakiers, c'est tout simplement, vous voyez, des grandes roues, là ici, roues en bois, qui, sur son pourtour, quand il y a des poteries, et là c'est une roue métallique avec des godets, et alors vous avez un animal, une femelle dromadaire ou une buffleuse, qui tourne pendant des heures, ça permet d'actionner la roue, et là encore, de monter de quelques dizaines de centimètres l'eau, qui pourra se déverser à nouveau dans des rigoles. Et enfin, là ici, voici une photo prise, il y a bon, une vingtaine, trentaine d'années, vous voyez deux garçonnets, au lieu d'être à l'école, eh bien, qui tournent une vis d'Archimède. Vis d'Archimède, c'est quoi? Mais c'est tout simplement un cylindre de bois cerclé de fer, et à l'intérieur, vous avez une hélice. Si vous la tournez assez vite, ça monte l'eau, là encore, vous voyez, de 50 à 60 centimètres, pour la déverser de des rigoles qu'on devine derrière. Et enfin, maintenant, ce que l'on voit, c'est plutôt ça. C'est des pompes tout à fait motorisées, et puis l'eau, donc, qui jaillit en abondance et qui alimente des canaux d'irrigation, des petits, là encore, des rigoles d'irrigation. Alors, si l'on fait le bilan, vous voyez qu'on est passé de l'énergie humaine à l'énergie animale, et enfin à l'énergie mécanique. On peut considérer que c'est un progrès. Je le nuancerai, parce que maintenant, eh bien, on a tendance à surirriguer, puisque ça se fait sans fatigue, avec beaucoup de facilité, on gaspille l'eau qu'auparavant on utilisait de façon tout à fait parcimonieuse. Donc, et ça ne sera pas la seule fois que je me prononcerai là-dessus, le progrès, j'ai envie de mettre quelques guillemets autour de ce terme. L'Égypte est le pays qui détient le record du monde des canaux d'irrigation. 120 000 km de canaux d'irrigation. Ce qui veut dire que dans la vallée et dans le delta, vous avez un réseau de canaux tout à fait important pour amener et uniquement pour l'irrigation. Vous voyez, là, il y a une barque de Fella, mais cette barque permet au Fella d'aller d'un côté de la rive à l'autre. C'est pas vraiment, on ne navigue pas vraiment sur ces canaux. Sinon de façon très très ponctuelle et très réduite. Cette image est assez intéressante parce que là vous voyez il y a une vanne, ça laisse entendre que de façon perpendiculaire vous avez un canal qui vient donc communiquer avec celui-ci et qui là encore permet d'amener l'eau un petit peu plus loin dans les terres cultivable. Évidemment, cette vanne est ouverte de façon très réglementée à des heures très précises et une durée très surveillée. Voici le canal Marmoudier. Le canal Marmoudier, c'est le canal qui provient de la branche la plus à l'ouest, la plus occidentale du delta du Nil et qui amène sur un petit peu moins de 30 km l'eau douce jusqu'à la ville d'Alexandrie. Alexandrie, je crois l'avoir parlé dernière, n'est-ce pas? Eh bien, manquait d'eau douce, eh bien, voilà. Grâce au canal Marmoudier, elle est alimentée, au moins partiellement, en eau douce. Parfois, malheureusement, le spectacle, c'est ça. C'est pas toujours très très bien entretenu. Vous avez compris que j'emploie un langage diplomatique quand je dis ceci, et quand vous imaginez qu'en aval, des femmes de Fella viennent laver le linge, éventuellement la vaisselle, je vous laisse imaginer les conséquences hygiéniques, sanitaires, auxquelles cela donne, et c'est assez dramatique, hein. Vous avez des maladies qui résulte de tout ceci. Alors, la ville d'Alexandrie comporte aussi, je le rappelle, je l'avais dit déjà, je crois, et je vais vite passer, un réseau, ce qu'on appelle les hipponomes, un réseau de tunnels, c'était les égouts, une utilisation de l'eau, donc, qui permet d'alimenter la ville en eau, mais aussi des puits, mais d'évacuer les eaux usées, hein, ce rôle d'évacuation des eaux usées est un rôle tout à fait déterminant dans l'utilisation de l'eau. Et puis la ville d'Alexandrie, je l'avais dit aussi, donc je vais passer assez vite, comportait un grand nombre de citernes pour recueillir l'eau de pluie. Alexandrie, il y a à peu près 250 mm d'eau qui tombe par an. Les géographes définissent à 300 mm d'eau par an les zones désertiques, quand il y en a moins. Donc, Alexandrie, c'est dans une zone désertique. Néanmoins, il y a un peu d'eau qui tombe. On l'a recueilli depuis l'origine de la ville dans des citernes. Et ça permet donc d'alimenter pendant quelques temps, pendant quelques mois, la ville. Alors, pendant très longtemps, il y a eu la corporation des Sakaïnes. Les Sakaïnes, c'est les porteurs d'eau, vous voyez. Et, alors, c'était des pauvres gens, hein. Qui avaient une outre, souvent de chèvre, en peau de chèvre, et ils allaient remplir, ou dans un canal, ou dans le Nil lui-même, leur outre, et venir proposer leur eau aux portes des maisons bourgeoises, des grandes villes, notamment le Caire, Alexandrie ou d'autres. Il est évident qu'avec le réseau d'eau courante, cette corporation a totalement disparu. Et, alors, désolé mesdames, mais il n'y a pas parité, la tâche d'alimentation en eau au quotidien des foyers vous relève entièrement. Hein, les hommes ne sont pas concernés dans ce domaine. Voici donc un tableau d'un orientaliste au XIXe siècle, et voici une photo beaucoup plus récente, où là, vous voyez un camion-citerne, mais alors énorme, qui alimente en eau douce un village, et tous les gens venir puiser leur ration quotidienne, hein, dans des bidons, et bien vous voyez, là, c'est encore la tâche des femmes. Alors quand on a 25 ans, on porte sur sa tête allègrement, bon quoi, facilement 30 kilos, 40 kilos, hein. Quand on en a 50, la colonne vertébrale commence à montrer des signes de fatigue. Il y a en Égypte ce qu'on appelle des nilomètres qui ont toute l'apparence de puits, n'est-ce pas ? Mais qui n'en sont pas. Parce que depuis la plus haute antiquité, au temps pharaonique, eh bien ces nilomètres avaient des échelles qui permettaient de mesurer la hauteur de la crue. Et c'était absolument déterminant, parce que quand la crue était favorable, eh bien, et les impôts et les taux d'emprunt étaient relativement élevés. Et quand la crue était défavorable, ou insuffisante, ou catastrophique car surabondante, eh bien, les taux d'impôts et les taux de prêts étaient diminués. Donc ça déterminait la hauteur de la crue, très clairement, la vie économique de l'année. Hein, c'était tout à fait important. Le dieu Nil, le dieu Hapi, qui était dans le panthéon égyptien, le dieu Nil, était un dieu important. Et alors, croyez-moi, parce que ça ne se voit pas sur ce bas-relief, mais il a des attributs masculins. Dans d'autres représentations, c'est clair. Et néanmoins, regardez sa poitrine, elle est clairement féminine. Donc, c'est un dieu hermaphrodite. Et on comprend très aisément la symbolique attachée. C'est un dieu de fécondité. Parce que quand les crues n'étaient pas favorables, et si ça se répétait, c'est les célèbres vaches maigres qui pouvaient succéder aux vaches grasses dans la Bible, hein, eh bien, les Égyptiens mouraient de faim, de famine, tout simplement. Et c'était absolument dramatique si cela durait 2 ou 3 ans consécutifs, bien sûr. Alors, quand la crue se retire, eh bien, le limon apparaît, le limon que le fleuve a apporté, et vous voyez là, ici, une scène de garçonnet qui joue dans la boue, et c'était la fête, presque, dans la campagne, hein, ou dans les villages, quand la crue se retirait, parce que le Nil avait apporté de la nouvelle terre, particulièrement fertile, sur laquelle on pouvait cultiver. Et vous voyez que le tas de limons pouvait atteindre, l'épaisseur du limon pouvait atteindre plusieurs mètres. Là, ici, on est à 4-5 mètres d'épaisseur. Hein. Le limon sert, en mélangeant avec du pisé, à faire des briques crues, donc à confectionner des maisons. Qui, quand elles étaient trop abîmées, ben, on reconstruisait la maison, ça se recyclait. Il est évident que maintenant, quand on utilise des briques cuites, ça ne se recycle plus. Il y a même des pyramides qui ont été construites en briques crues. Et ça, c'est un peu en dehors des circuits touristiques classiques. Alors, vous imaginez cette pyramide qui a quand même à peu près 4000 ans, hein, tout près de 40 siècles. Eh bien, à l'origine, elle était recouverte de parements en calcaire blanc. Ça resplendissait au soleil, c'était absolument magnifique. Mais à l'intérieur, c'était de la brique crue. Les parements ont disparu parce que, au fil des siècles, les Égyptiens du voisinage ont utilisé les parements pour construire des édifices donc qui les intéressaient. Le Nil a servi également comme voie de transport par excellence. On naviguait sur le Nil et donc il y avait des bateaux. Et voici, là c'est l'équivalent d'un d'un vélo. Hein. C'est un bateau fait en papyrus, en tige de papyrus d'autrefois, et que les Égyptiens utilisaient à fin personnelle. Là, il y a une seule personne, bon, on veut se déplacer, on a son petit bateau qu'on a construit avec des tiges de papyrus, et puis voilà, on se déplace. Eh bien, alors, c'était aussi une source d'alimentation. Le Nil était extrêmement poissonneux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vrai. Ouais, peut-être avez-vous, si vous êtes allé il y a quelques années, près du Caire, sur le plateau de Gizeh, au pied de la pyramide de Khéops, la grande, eh bien, vous aviez un musée que, personnellement, je considère comme le plus extraordinaire du monde. Il y avait une seule pièce qui était exposée dans ce musée. Mais quelle pièce? La barque solaire de Khéops, 42 mètres de long, qui a été découverte dans une fosse juste à côté et que l'on a mis, que les Égyptiens ont mis une quinzaine d'années à remonter dans un état de conservation absolument fabuleux, parce que ça a quand même 43 siècles, ça. Eh bien, c'est la dernière barque utilisée par le pharaon, enfin plutôt momifiée, quand il allait de la rive est, là les rives du Levant, la rive des vivants, vers la rive ouest, la rive du couchant, la rive des morts, se faire enterrer. C'est lui qui a transporté, donc pour la dernière fois, Khéops, momifié. Si vous voulez avoir une petite idée de la navigation antique, il faut pousser jusqu'à Assouan. Et là, vous avez dans le Nil encore un certain nombre de felouks qui naviguent maintenant pour des raisons touristiques. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est très agréable. Si vous passez 2 ou 3 heures dans une felouk, le temps se suspend véritablement. Voici des images relatives à la navigation. Là, ici, des reconstitutions de bateaux. Là, c'est l'Antiquité un peu tardive. Bon, il faut faire confiance aux historiens. Regardez cette photographie prise par les frères Lumière à la fin du XIXe siècle. Les frères Lumière sont venus en Égypte pour trouver des photos et tourner des films afin d'alimenter leur salle de spectacle, de cinématographe, évidemment, pour présenter leur invention. Là, ici, vous avez un bateau de croisière entre deux guerres pour aller de Louxor à Assouan dans un sens ou dans un autre. C'est un de ces bateaux qu'a fréquenté Agatha Christie, par exemple, lorsqu'elle est venue en Égypte et qu'elle a conçu un de ses plus célèbres romans policiers. Là, voici une photo beaucoup plus récente. Vous voyez des cargos destinés à transporter des objets pondéreux et souvent de la matière pondéreuse en vrac. Donc, le Nil sert encore à la navigation. Navigation qui, parfois, est gênée par les fameuses cataractes du Nil. Alors n'imaginez pas des chutes spectaculaires comme on peut le voir dans certaines de nos montagnes. Les 6 cataractes répertoriées par les géographes, la première en amont immédiat d'Assouan et la toute dernière en aval de Khartoum, dernière et sixième. Eh bien voilà, ce sont simplement, voici la première cataracte d'Assouan, des endroits où le cours du fleuve, eh bien, présente des enrochements qui sont là et qui gênent la navigation. Qui gênent la navigation parce que elle devient beaucoup plus difficile, au risque de heurter ces rochers. Là, le cours d'eau est un petit peu plus rapide puisqu'il s'est resserré. Voici des photos de la deuxième cataracte. Désormais, c'est fini, on ne peut plus en prendre parce qu'elle est complètement noyée. C'est le haut barrage d'Assouan dont je vais vous parler, dans le lac de retenue, quatrième, la cinquième. Vous voyez, en fait, la cinquième, il y a quelques rochers qui se présentent là. Bon, il faut faire attention pour la navigation. C'est tout. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de navigation dans ces endroits-là au Soudan. Bien, des barrages. Eh bien, des barrages, je vous ai parlé du premier barrage antique. C'est au XIXe siècle qu'on a recommencé à construire des barrages. Le premier, barrage du Caire, c'est la volonté de Mohamed Ali, le célèbre vice-roi d'Égypte au début du XIXe siècle. Donc, Mohamed Ali était francophile et s'entourait de conseillers français. Eh bien, je ne vais en citer qu'un, Linan de Belfond, jeune ingénieur. Et imaginez que Linan de Belfond, tout frais et moulu de son école d'ingénieur française, il avait tout juste 20 ans, il a voulu voir du pays, il est allé au Proche-Orient, il est tombé amoureux de la région, il y est resté pour passer toute sa carrière là-bas, et il s'est mis au service de Mohamed Ali. Et Mohamed Ali lui a dit un jour, « Bien voilà, je voudrais que vous me construisiez un barrage un peu en amont du Caire pour protéger le delta des crues catastrophiques. » Et puis il dit, écoutez, près du Caire, vous avez des gros tas de pierres qui ne servent à rien. Vous me les utilisez pour faire des barrages. Et à une époque où on n'avait pas tellement le souci de la préservation du patrimoine, Linan de Belfond a eu des scrupules. Il s'est dit, parce que vous avez compris quels étaient ces gros tas de pierres qui ne servaient à rien. Alors il s'est dit, comment désobéir à mon seigneur et maître sans qu'il se fâche, sans qu'il s'en rende compte? Et il a une idée que je trouve géniale. Il a rempli un cahier d'écolier, qui est conservé aux Archives nationales d'Égypte, avec des calculs parfaitement confus, abscons. Il le savait très très bien. Mais une conclusion claire. Non, décidément, pour construire le barrage, il faut laisser les pyramides tranquilles et utiliser des pierres, des carrières, des plateaux qui dominent le Caire, comme les Égyptiens l'ont fait depuis la plus haute antiquité. Donc, si vous voulez, c'est grâce à ce monsieur qu'on peut encore admirer les pyramides de Gizeh. Alors, pardonnez-moi ma digression, mais j'ai voulu lui rendre hommage. Il était un peu oublié de l'histoire, et c'est dommage, il a joué un grand rôle. Donc, il a construit un barrage en 1835 pour Mohamed Ali, et le voici, tel qu'on pouvait le voir au début du XXe siècle, sur une carte postale donc du XXe siècle. Et maintenant, il a été restauré en 1936, et il est situé à 28 km au nord du Caire. Et voici le barrage tel qu'il se présente. Il régule le cours du fleuve, donc avant que le fleuve se partage dans son delta. D'autres barrages, eh bien, il y a eu au niveau d'Assouan, un peu en aval, enfin en amont plus précisément d'Assouan, un ancien barrage qui là cette fois-ci est dû plutôt aux Anglais parce qu'à cette époque-là ils dominaient le pays. Vous voyez, on a construit, il a été inauguré, on l'a construit au début du fin 19e, tout début du 20e siècle. Voici une photo qui date de 1906. Et puis il a été rehaussé à deux reprises, ce barrage. Et derrière ce barrage, il y a véritablement un lac de retenue assez important. Et dans ce lac de retenue, a immergé le site de Philae, ce qui d'ailleurs a provoqué des chocs auprès des esthètes français, dont Pierre Loti, notre Rochefortais. Eh bien, tout simplement parce que, vous voyez, ça a été dessiné par les savants qui ont accompagné Bonaparte. Le site de Philae était parfaitement préservé depuis un peu moins de 2000 ans, 1500 ans à peu près, eh bien, il était parfaitement conservé, y compris avec des peintures sur bas-relief qui étaient magnifiquement conservées. Eh bien, il est évident qu'avec l'eau, ces peintures n'ont pas résisté. Alors, d'autres barrages, je vais aller assez vite, trois barrages, disons, en Moyenne Égypte, Assiout, Tagamali, Esna. Le barrage d'Esna, si vous avez fait la croisière de Louxor à Assouan, vous êtes passé par les écluses du barrage d'Esna. Voici sa version initiale et une version complètement modernisée. Même chose pour Assiout, version initiale et version totalement modernisée. Et enfin pour Nag Hammadi, troisième et dernier grand barrage donc sur le Nil, version initiale, version complètement modernisée. Et à chaque fois, les plans d'eau qu'ils sont derrière ces barrages avec leur modernisation, ont augmenté en volume, ce qui permet d'irriguer davantage de terrain de chaque côté. Largeur des écluses, ça permet à de plus gros bateaux de passer. Production d'électricité, nouvelles turbines. Et puis enfin, c'est des endroits où les véhicules automobiles peuvent traverser, y compris les camions et parfois de très gros camions, parce que dans le désert peuvent circuler de très, très, très gros poids lourds. Bon, maintenant passons à notre héros, si je puis dire, du jour, le haut barrage d'Assouan. Alors, et on peut s'inspirer d'une réflexion de Napoléon Bonaparte. Vous savez, quand Napoléon est venu à l'articulation du 18e et du 19e siècle en Égypte, à la tête de l'armée d'Orient pour conquérir le pays, eh bien, il ne restait que 13 mois, mais les Français au total 3 ans, Bonaparte gardait de cette expérience un très très bon souvenir. Et voici, quand il a été premier consul, un jour, il a déclaré ceci. Il n'existe pas d'autre pays qui se puisse mieux contrôler grâce au fleuve, sous une bonne administration, sous-entendu la mienne. Le Nil gagne sur le désert, sous une mauvaise, seul des autres, le désert gagne sur le Nil. Si j'étais puissant dans ce pays, j'empêcherais qu'une seule goutte d'eau ne se perde dans la mer. C'est très volontariste, ce qui ne nous étonne pas trop de la part de Napoléon Bonaparte, et ce qui n'est pas très écologiste, mais enfin bon, à cette époque-là, ça peut se comprendre, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau qui aille jusqu'au delta et jusque à la mer Méditerranée. Alors, eh bien, la venue des Français a une certaine influence en Égypte, et Gamal Abdel Nasser, le colonel devenu président, eh bien, s'est inspiré d'ailleurs de Bonaparte, il y a eu des textes tout à fait intéressants, et eh bien, il avait des grands projets pour son pays, et son grand projet, c'était de construire de façon définitive, si vous voulez, un grand barrage qui allait réguler complètement, durablement, le cours du Nil pour éviter, évidemment, toute crue catastrophique ultérieure. Alors, il va prononcer un grand discours à Alexandrie en 56, nationaliser le canal de Suez, ça va provoquer une guerre, mais ça, je ne suis pas sûr sur les détails, pour pouvoir financer son barrage. Alors, voici un schéma très très simple, mais le vieux barrage dont j'ai parlé tout à l'heure, là vous avez le lac de retenue du vieux barrage, l'île Philae est là-dedans donc, hein. Et puis, à 6,5 km en amont, un grand barrage avec une toute autre importance, toute autre dimension, donc de prévu. Alors, la construction, c'est caractéristique, ça a duré 11 ans, vous voyez, long de près de 4 km, c'est énorme, près d'un, épais d'un kilomètre à la base, vous voyez l'importance hein, de ce barrage, 43 millions de mètres cubes de remblai, j'avoue, je ne sais pas, mais j'avoue que ça ne me représente pas grand-chose, 43 millions de mètres cubes de remblai, 17 fois le volume de la Grande Pyramide, bon, je fais confiance à ceux qui ont calculé, et paraît-il que ça a coûté 1,350 milliards de dollars de 1960, donc 8,5 milliards de nos euros. Je dis paraît-il parce que jamais les chiffres officiels n'ont été parus dans le détail, c'était global, bon. On n'est pas obligé de ne pas faire confiance. On n'est pas obligé de faire confiance non plus. Voici l'inauguration. Ça a été construit avec l'aide des soviétiques de l'époque. Nikita Khrushchev. Donc, les Égyptiens s'étaient adressés aux Américains qui les ont fait lanterner puis qui ont fini par dire non. Alors, ils se sont adressés aux soviétiques qui tout de suite ont dit oui. Ils étaient ravis de s'implanter dans le pays. C'était la guerre froide. Voici une photo du fameux barrage donc d'Assouan. Là, vous avez le lac Nasser, lac de retenue, et là, vous avez la centrale électrique et l'eau qui en sort et qui va alimenter de façon régulière la vallée du Nil et tout le pays d'Égypte. Alors, l'inauguration véritablement a eu lieu, les travaux étaient achevés après le début de la mise en œuvre précédente, eh bien, en 1971, l'histoire avait avancé, le président Nasser était mort en 70, remplacé par son successeur Sadat, Nikita Khrouchtchev avait disparu, tombé dans les oubliettes de l'histoire, et avait été remplacé par d'autres personnages, et là, c'était le premier ministre Podgorny qui a inauguré avec sa date le barrage. Alors, la centrale électrique, d'emblée, 12 turbines de prévues. Jamais il y en a plus de 10 qui ont fonctionné. Et puis, même sur le papier, au départ, 10 milliards de kilowattheures par an. Jamais ça n'a dépassé 8 milliards de kilowattheures par an. Et maintenant, à peine, péniblement, 2 milliards de kilowattheures par an. Les turbines ne sont pas très très bien entretenues. Et puis le limon altère très sérieusement la rentabilité des turbines. Donc le bilan électrique est décevant. Et quand je dis décevant, une fois de plus, je suis diplomate. Voici l'image et l'eau qui sort de la centrale électrique, donc qui va alimenter la vallée du Nil. Alors, conséquence. Nasser voulait que son pays, que ça facilite l'indépendance économique de son pays. Eh bien, en fait, les Égyptiens étaient dans les mains des Soviétiques. Et je vais prendre qu'un seul exemple, celui du coton. Le coton, vous savez que le coton égyptien, cultivé dans le détail, et ça demande beaucoup d'eau d'ailleurs, la culture du coton, eh bien, est considéré comme parmi les tout meilleurs du monde, sinon le meilleur. Quand les Égyptiens, à cette époque-là, vendaient leur coton, il y avait un prix intérieur, bon, très bien, un prix d'exportation, plus cher, bon, après tout, si les acheteurs, comme nous, acceptaient de payer un peu plus cher, les Égyptiens avaient raison, n'est-ce pas? Et puis un prix soviétique, qui lui était très inférieur au prix intérieur. Et les Égyptiens, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois de ce problème avec les Égyptiens, ils avaient la conviction de se faire gruger. Et ils n'avaient pas tort. Autre conséquence, le peuple nubien. Eh bien, derrière le haut barrage d'Assouan, il y a un lac qui va se créer sur 500 kilomètres de cours du fleuve. Donc c'est énorme. Eh bien, le long du fleuve, il y avait des villages. Ces villages allaient être immergé par le lac, dans le lac de retenue. Et il y avait des gens qui habitaient, à peu près 150 000 à 200 000 personnes, des Nubiens, comme on les appelait, dans des villages considérés comme très très beaux, parfaitement adaptés au climat. Et évidemment, ben, ces gens-là ont été chassés, sont devenus des émigrés de l'intérieur et sont allés peupler les quartiers populaires des grandes villes, comme le Caire. J'en ai rencontré des étudiants nubiens qui, il y a une quarantaine d'années, mais qui vivaient avec beaucoup d'amertume ce déracinement. Ils étaient paupérisés au dernier degré, hein, ça c'est évident. Conséquences environnementales, la vallée. Eh bien, regardez les rives de la vallée. Il y a quelques mètres qui sont devenus abrupts. Autrement dit, le fleuve n'apporte plus de limon, mais il attaque le limon, il emporte le limon préalablement déposé. Donc, c'est assez fâcheux parce qu'il n'y a pas renouvellement de cet apport de terre fertile. Et ça a évidemment des conséquences pour les paysans. Nasser voulait se préoccuper des paysans. Eh bien, désormais, puisque les paysans ne bénéficient plus d'apports réguliers de terre, la terre s'appauvrit. Donc, ils doivent acheter des engrais. Et ils doivent emprunter à des taux usuraires. On se plaint de nos taux. Je ne discute pas là-dessus. Hein. Mais en Égypte, quand c'est du 20%, c'est pas très cher. Hein. Ça atteint facilement 25%. C'est énorme, ces taux d'emprunt. Donc, désormais, les paysans se paupérisent très clairement et ils sont dans les mains d'usuriers. Voici le delta. Bon, ben ça, c'est une image classique du delta, mais désormais, on peut voir aussi ceci. Là, évidemment, je vous montre une photo presque excessive. C'est le summum de l'évolution. Il y a salinisation des terres parce que la crue ne lave plus en surface le delta. Et le sel, il y a de l'eau saumâtre dans le sous-sol, elle a tendance à remonter et parfois ça donne ça. Imaginez les conséquences. Ces terres-là, depuis plusieurs siècles, au moins depuis plusieurs générations, elles appartenaient à des familles qui n'étaient pas des paysans toujours très très riches, le moins qu'on puisse dire. Eh bien, des terres stériles comme ça, ça ne vaut plus rien. Tout ce que l'on possède, tout d'un coup, fond totalement, ne vaut plus rien. Que font les gens? Eh bien, ils vont dans les quartiers populaires des grandes villes, je me répète, Alexandrie, Le Caire, etc., et sont totalement paupérisés, eux aussi. Toute la corporation des pêcheurs dans le delta, y compris même sur le littoral, puisqu'il n'y a plus apport d'eau douce du cours du Nil, la salinisation augmente et gagne aussi, ce qui fait que les poissons se raréfient, les équilibres se rompent dans la biodiversité, comme l'on dit maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, les pêcheurs pêchent de moins en moins de poissons. Et enfin, le delta, puisqu'il n'y a plus apport de limon dans le delta se fragilise. Et les tempêtes, et croyez-moi qu'en en Méditerranée, une tempête, ça existe et ça peut être violent, eh bien, les tempêtes, quand elles frappent le littoral, elles attaquent très sérieusement le delta. Et Alexandrie, alors dans un classement d'experts, je ne discuterai pas, Alexandrie est considérée comme la troisième ville au monde menacée par le réchauffement climatique et la montée des eaux. Donc Alexandrie est une des villes les plus menacées par la montée des eaux. Bien, alors bah oui, on fait ce qu'on peut, on bétonne. Bon, le lac Nasser, on a sous-estimé l'évaporation, là encore, réchauffement climatique, et il a baissé de 6 mètres depuis sa mise en eau. C'est énorme, c'est énorme. Alors, évidemment, au point qu'on peut considérer comme positif, d'un strict point de vue économique, il y a des bateaux de croisière qui vous permettent, là ici on est devant le site d'Abou Simbel, qui permettent à quelques touristes, donc, de visiter, même de descendre parfois, visiter les sites, et ce sont des croisières extrêmement agréables. Si vous êtes pêcheur à eau douce, dans le lac Nasser, vous avez la fameuse perche du Nil, le plus gros poisson qui existe, poisson d'eau douce, qui peut atteindre un quintal, 100 kilos. Donc, ça mérite une photo, n'est-ce pas? Les hippopotames ne sont pas revenus, mais les crocodiles se sont mis à proliférer. Intelligemment, je trouve, les Égyptiens ont créé deux fermes d'élevage de crocodiles, et puis de temps en temps, on en trucide un, et vous savez ce qu'il devient. Les peaux alimentent les ateliers des maroquiniers de Milan et de Paris, ou d'ailleurs. Mais, autre conséquence, eh bien, tout au long des rives du fleuve, il y avait des sites archéologiques. Et voici, par exemple, les principaux sites. Vous voyez, là, ici, on est à Assouan, l'ancien barrage, le nouveau barrage, là. Et sur les 500 kilomètres, donc, ennoyés par le lac Nasser, il y avait 56 sites d'intérêt archéologique. Alors, ça a ému Christiane Desroches-Noblecourt. Christiane Desroches-Noblecourt, longtemps conservatrice du département égyptien du musée du Louvre, et lors d'un colloque à l'UNESCO, en 1960, a prononcé pour la première fois ce mot « il faut sauver ces temples, car ils appartiennent au patrimoine de l'humanité ». Vous savez que le mot « patrimoine », depuis, a fait florès. C'est elle qui, à cette occasion, a introduit le concept de patrimoine. Alors, c'était une que je considère une grande dame, dans tous les sens du terme. Elle avait une aura dans le monde égyptologique et elle a demandé à différents pays de prendre en charge le sauvetage d'un site, voire de plusieurs. Bon, voilà. Et comment ça s'est passé? Bon, bien, les États-Unis en ont pris deux ou trois, la France aussi, etc., hein, essentiellement des pays d'Afrique, d'Europe occidentale d'ailleurs, et, ou anglo-saxon, les Canadiens aussi. Et il se trouve qu'il y a un site qui ne trouvait pas preneur, le site d'Abana. Et Christiane Desroches-Legouvreur dit, mais pourtant, il faut le sauver. Il dit, personne n'en veut? Eh bien, au nom de la France, je m'y engage, nous allons sauver ce site. Alors elle va le voir, le ministre de la Culture de l'époque, un certain André Malraux, qui lui dit, mais madame, vous vous êtes engagée au nom de la France? De quel droit? Il faut que j'en réfère au président de la République, un certain Général de Gaulle. Apprenant ça, Général de Gaulle convoque immédiatement Christiane Desroches-Noblecourt à l'Élysée dans le bureau présidentiel. Alors vous imaginez, j'ai lu le compte-rendu qu'a fait de l'entretien de Christiane Desroches-Noblecourt. Elle s'était pomponnée, bien sûr, hein, reçue par de Gaulle de la façon la plus solennelle qui soit. Elle se présente et aussitôt le général l'accueille. Mais comment avez-vous pu, madame, engager la France ainsi sans en référer à qui de droit? Alors, Christiane Desroches-Noblecourt se dit, bon, bien, elle ne s'attendait pas à cet accueil. Et de deux choses l'une, ou elle se confond en excuses, ou alors elle fonce. Elle avait un tempérament fonceur. Elle a décidé de foncer. Et elle dit, mais général, dans mon humble domaine, je n'ai fait que m'inspirer de votre action. N'avez-vous pas un jour fait cette déclaration sublime dont nos cœurs gardent encore l'écho? La France a perdu une guerre, mais a perdu une bataille, pardon, mais elle n'a pas perdu la guerre. Aviez-vous pris à cette époque le temps de consulter le gouvernement? Alors il paraît que le général est resté une bonne demi-seconde un peu interloqué. Bon, j'imagine qu'il n'avait pas trop l'habitude qu'on lui réplique sur ce ton. Et puis il a souri parce qu'il s'était renseigné sur cette dame qui affirmait son gaullisme à qui voulait l'entendre, d'une part, qui, étant adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale, étudiante à Paris, avait rendu des services à un réseau de Français libres. Je passe sur les détails. Et de Gaulle lui a dit, madame, je maintiens ma position, je maintiens mon point de vue, mais sachez que j'ai donné ordre à monsieur le ministre de la Culture, André Malraux, de trouver les fonds pour que votre engagement soit honoré. Il paraît que... Christiane Desroches-Noblecourt dit... Oh, j'ai failli contourner le bureau présidentiel et aller lui claquer une bille sur chaque joue. Je tiens à préciser qu'elle ne l'a pas fait. Bref, il y avait une campagne mondiale pour sauver ces temples. Alors vous voyez, eh bien, sur les 37 concernés en Égypte, 20 ont été sauvés, 17 engloutis, au Soudan seulement 4, 15 engloutis, total 24 donc sauvés, et 32 engloutis. Il faut bien savoir quand même que les temples les plus importants ont plutôt été sauvés, à une exception près dont je vais vous parler. Alors voilà, on peut aller, si vous faites cette croisière sur le lac Nasser, voir donc des temples qui ont été déplacés et pour être transportés ou sur la rive ou sur des îles qui restaient émergées, en quelque sorte. Alors, là, vous voyez, Kalabcha, c'est les Allemands qui l'ont sauvé, Kertassi, Uder, plus exactement, je crois que c'est les Italiens, etc. Le fameux temple sauvé par les Français, grâce à Christiane Desroches-Noblecourt, c'est le temple d'Amada. Les Français, à cette époque-là, ont innové. Ils ont mis sous le temple des rails pour transporter sur 2,6 km en 6 mois le temple d'un seul bloc pour éviter de le débiter et d'abîmer les fresques qui étaient à l'intérieur. Alors, c'est une performance réelle. Bon, alors il y a des temples. L'Égypte a donné des temples à certains pays en remerciement. C'était une façon aussi de les sauver. Et dans le Metropolitan, le célèbre musée de New York, vous avez le temple de Dendur, magnifiquement exposé. Vous en avez un, vous voyez, dans un musée des Pays-Bas, vous en avez un autre dans un jardin public de Madrid, etc. Christiane Desroches-Noblecourt a refusé que la France hérite d'un temple, parce qu'elle a dit « Moi, je me suis battu pour qu'il reste en Égypte, donc c'est pas pour qu'il soit déplacé. » C'est beau, c'est grand, c'est généreux, la France. Vous avez aussi, à cette occasion, on a trouvé de nouveaux sites totalement inconnus. Notamment la basilique de Pharas, qui était complètement enfouie, basilique donc chrétienne, où à un temps, ça a duré quelques siècles, où le Soudan était chrétien. Et là, ce sont les Polonais qui ont voulu sauver ce qui était... même si ça a été immergé, mais on en a sauvé une bonne partie, et on comprend que les Polonais aient voulu sauver un site chrétien. Par contre, la disparition la plus dommageable d'un point de vue archéologique, c'est celle-ci, c'est la forteresse de Buen. La forteresse, imaginez une forteresse, l'enceinte fait à peu près 4,5 km de pourtour, en briques crues. C'était la dernière forteresse magnifiquement conservée, donc des temps pharaoniques. Et évidemment, on n'a pas pu la sauver. C'est de la brique crue. À partir du moment où c'est immergé, il ne reste plus rien. Le temple d'Abou Simbel fait partie des temples concernés, et c'est d'ailleurs le plus beau. Voici la plus vieille photo du temple d'Abou Simbel, qui date, vous voyez, de la moitié du XIXe siècle. Et au fil des vents de sable, eh bien, la dune de sable se déplaçait et venait plus ou moins donc cacher la façade du grand temple ici que l'on peut voir. Alors, on a amené du matériel et des grues de taille énorme pour débiter les deux temples d'Abou Simbel, les rehausser de 65 mètres pour les mettre sur un site qui serait préservé des eaux. Là, ici, vous avez une visite d'André Malraux. Là, tout le sauvetage du temple s'est fait sous la direction, la supervision de Christiane Desroches-Noblecourt. André Malraux est venu visiter l'avancement des travaux. À cette occasion, il a déclaré le pouvoir qui en fit surgir les colosses aujourd'hui menacés nous parle d'une voix aussi haute que celle des maîtres de Chartres, que celle de Rembrandt. C'est du Malraux. Alors, on a profité pour étudier, mais vraiment millimètre par millimètre, les deux temples, avec des échafaudages absolument énormes, et on a donc rehaussé pour le temple, vous avez le grand temple, sur une colline artificielle. Au départ, il était adossé à une colline naturelle. Là, ici, une colline en béton. C'était un travail assez remarquable. Vous voyez, on déplace des blocs. Alors ça fait une dizaine de tonnes. Donc il faut des grues quand même de taille et d'efficacité absolument remarquable pour tout reconstituer. Et voici le résultat quand vous êtes sur le site un peu devant les deux temples. Vous voyez le petit temple, le temple de la reine Néfertari, parce qu'elle est représentée deux fois, grande épouse royale de Ramsès II. C'est Ramsès II qui a voulu tout ce site, hein. Et puis le grand temple qui est là, ça a coûté 40 000 dollars de l'époque, environ 40 millions, merci de me corriger, et environ 250 millions d'euros actuels. Alors voici le petit temple, là, quatre fois Ramsès II et deux fois Néfertari, sa grande épouse royale, et le grand temple. Alors quand je dis petit temple, néanmoins, c'est colosse, on dit maître, hein. Mais que dire de ceux-ci qui sont assis? Eux ont 20 mètres. Leur bouche, 1,10 m. Leur oreille, plus d'1 mètre. ceux de taille absolument respectable, Ramsès II voulait ces temples pour impressionner des envahisseurs venant du sud et les faire réfléchir à deux fois parce que à quel souverain puissant il s'attaquait, capable d'ériger de tels monuments. Philae, on en a profité aussi pour sortir Philae de l'eau. On l'a entouré de bâtards d'eau pour assécher le site proprement dit et le transporter sur un petit îlot qui, lui, était constamment émergé. Vous voyez, on l'a partagé en 49 000 blocs, et ce qui fait que désormais, vous, si vous allez jusqu'à Philae, eh bien, vous y allez en bateau. Mais vous, sur le site, vous le visitez à pied sec. Et alors, on en a profité, le président Moubarak, alors, après Nasser, le président Moubarak a voulu aller plus loin. Et en s'inspirant de ceci, vous voyez cette espèce d'os de cœur ou d'os de pique, ça dépend de l'orientation choisie, une petite tache verte, c'est une oasis artificielle. Il y a localement une dépression. Donc, eh bien, on a creusé, alors ça s'appelle le Bahr Youssouf. Bahr, c'est la mer, M-E-R, en égyptien dialectal. La mère de Joseph. Joseph, le personnage biblique qui est entré, si je puis dire, esclave en Égypte et qui a fini vizir. C'est dire quand même que ce personnage avait des qualités. Eh bien, sur, disons, 25-30 kilomètres, le long du Nil, on a creusé, ça s'est déroulé il y a 38 siècles, eh bien, on a creusé un canal qui allait remplir la dépression de façon permanente. Créer un lac, donc, que les Égyptiens appellent le lac Karoun et que les Grecs appelaient le lac Moeris, eh bien, ce lac, il existait avec les crues catastrophiques. Quand le Nil avait une crue vraiment importante, le lac était rempli. Mais après, l'évaporation asséchait complètement le lac. Tandis que là, désormais, le lac est en permanence rempli d'eau. Et ça a permis, vous voyez, grâce à des norias aussi tout à fait spectaculaires, là c'est plusieurs mètres, eh bien, d'irriguer et de rendre cultivable 2000 km². C'est donc une réussite absolue, création de cette oasis artificielle. Alors, fort de cette expérience, les Anglais, cette fois-ci, qui dominaient le pays à la fin du XIXe siècle, ont créé un canal de 300 km de long. C'est le plus long canal du monde en eau douce. Eh bien, le long du Nil, ce canal, je vais vous montrer sur cette carte, vous voyez, 350 km, ça double la vallée, la zone cultivable de la vallée sur 350 km. Autrement dit, ça permet d'irriguer 4000 km². C'est donc une vraie réussite aussi, puisque on gagne sur le désert des surfaces absolument considérables. Donc, fort de ces deux exemples, eh bien, le président Moubarak a voulu aller plus loin. Regardez à nouveau cette carte. Vous avez un chapelet, là ici, de quatre dépressions, cinq avec le Fayoum dont je viens de parler, qui sont des vestiges de l'ancien cours du Nil durant l'ère tertiaire. Durant l'ère tertiaire, le Nil, en fait, faisait une grande boucle comme ceci. Et puis, il y a sans doute eu, à une période que l'on ignore, une crue tellement énorme qu'elle a changé le cours du Nil pour que désormais le Nil s'écoule comme on le sait. Eh bien, l'idée était la suivante, de créer une nouvelle vallée, d'apporter de l'eau là, pour irriguer toute cette région. C'est absolument fabuleux, parce que ça permettait de rendre cultivable donc des milliers de kilomètres carrés. Je me rappelle d'une d'une séance de travail que j'avais avec des intellectuels absolument remarquables, si sous-vite intellectuellement un peu trop, égyptiens, et qui, à la fin de notre séance de travail, m'ont dit « Marc, faut pas qu'on se quitte comme ça, on va te raconter le dernier projet du gouvernement. » Bon, ben, très bien, ça allait sortir d'ailleurs officiellement. Eh bien, ils me racontent ça, ils m'ont dit « Voilà, on va créer une nouvelle vallée, comme ça. » Et j'ai sorti tout de suite la réflexion, j'ai dit « Mais écoutez, si vous prenez de l'eau pour irriguer tout ça, c'est de l'eau qui va manquer ici. » Ça a créé un froid, tel que, ça a été glacial, tel que j'ai presque regretté ma réflexion, mais c'était malheureusement la réflexion qu'il fallait faire. C'est inenvisageable, ce genre de projet, parce que si on met de l'eau comme ça, il faut pratiquement assécher la vallée, avec des conséquences donc absolument énormes. On n'a pas deux fois plus d'eau, donc on ne peut pas créer une vallée comme ça, ex nihilo. Hein. Alors, le président Moubarak s'est un petit peu enferré quand même, et il a créé une station de pompage à partir non loin du lac Nasser, 24 pompes surdimensionnées, un peu de la folie, il y en a déjà vu deux qui ont fonctionné. Et ça permet d'irriguer localement et de créer des champs. Alors, vous voyez ici l'irrigation, là, ici, avec... et des arroseurs circulaires là qui tournent, et puis là c'est plus classique, et on cultive de la salade, des tomates, des carottes à un prix qui défie toute concurrence. C'est à peu près, je ne sais pas combien vous payez sur le marché de Sarlat tous ces légumes, mais je vous dis que c'est au moins 20 fois plus cher, et je suis sans doute en dessous de la vérité. Bon, c'est financé par des Saoudiens, pendant combien de temps, je ne sais pas. D'ailleurs, rien n'est vendu en Égypte, tout est exporté en Arabie Saoudite à l'heure actuelle. Inutile de vous dire que ce projet en Égypte n'est pas des plus populaires. Vulnérabilité du haut barrage. Eh bien, vous savez que les barrages, c'est dangereux. Et regardez cette carte qui montre la densité démographique du pays. Là, ici, vous avez Assouan, donc le barrage est à peu près là. Et la population, c'est dans les endroits les plus foncés. Eh bien, vous voyez que c'est tout au long de la vallée, le delta, un petit peu ailleurs. Mais si ce barrage, si ce haut barrage rompt, on nous l'a dit tout de suite en arrivant en Égypte, si le haut barrage rompt, vous avez 48 heures pour faire vos valises, ramasser tout ce que vous pouvez et aller vous réfugier sur les plateaux qui dominent le Caire en regardant passer l'eau. Il y aurait une vague destructrice à l'échelle du pays, ça serait évidemment le drame absolu. Bon, quand est-ce qu'un barrage cède? Défaut de conception cachée, manque de suivi dans la maintenance. Il se trouve que le barrage d'Assouan, c'est un barrage remblai. On a ramassé du sable, des rochers, des cailloux divers pour entasser tout ça et faire le barrage. Alors, la conception de ça, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas trop de problèmes. La maintenance, rien de plus simple non plus, c'est solide, ça devrait rester solide, donc ça ne devrait pas trop bouger. Les barrages remblais sont les plus sûrs. Quels sont ceux qui sont les plus dangereux? C'est les barrages en béton, parce que le béton peut mal vieillir. Accident de terrain, tel glissement, séisme, je vais en reparler. Et danger terroriste ou guerre, bon ben là, on est au Proche-Orient. Hein. Alors, zone sismique, eh bien revenons à Abu Simbel. Vous avez un des quatre colosses qui gît au sol, tout simplement parce que 4 ans après l'achèvement du temple, un tremblement de terre considérable a provoqué ces dégâts. Jamais Ramsès II n'a été averti, personne n'a osé, n'a eu le courage de lui dire « Voilà, votre magnifique temple, au bout de 4 ans, ben, il est sérieusement écorné. » Mais c'est une zone sismique. Et on comprend que ça soit une zone sismique, pour deux raisons. Regardez, l'Afrique est en train de se découper. Là, vous avez le Grand Rift, vous avez toute cette partie qui va se détacher de l'Afrique, comme l'a fait Madagascar il y a quelques millions d'années. Le seul problème est de savoir si c'est en un seul morceau ou en deux morceaux que ça va se passer. Bon, c'est pas demain la veille, mais c'est en train de s'écarter, vous avez des tremblements de terre. Et deuxième raison, le continent africain est en train de heurter ici l'Eurasie, hein, le no man's land, si je puis dire, entre les deux, c'est le Sinaï. Et vous avez donc une zone sismique, et l'actualité, malheureusement, nous l'a rappelé dramatiquement, puisque le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, les deux autres frontaliers autour de la frontière, ont été touchés, nous le savons, il y a quelques semaines. Donc, entre ces deux zones sismiques, vous avez Aswan, qui est à peu près ici, et qui est donc concerné des fois par des séismes en réplique. Donc, bon, le barrage est solide, mais ça peut bouger, et bouger très sérieusement. Alors, la situation politique générale, là je ne devais pas en parler, parce que le problème du Moyen-Orient, ça pourrait faire l'objet de quelques conférences qui se succèdent sans vouloir entrer en profondeur. En permanence, sur le haut barrage d'Aswan, vous avez un régiment de blindés et un régiment de l'armée de terre, donc qui essaie de protéger le dit barrage d'éventuelles actions terroristes. Mais la plus grande menace pour le barrage, c'est sans doute celle-ci. Regardez cette carte. Là, ici, vous avez les petits carrés bleus qui représentent les barrages déjà existants, les principaux, hein, parce que je n'ai pas tout représenté, et les petits orangés représentent les barrages prévus. Et parfois en voie d'achèvement. Et le principal, c'est celui-ci, le barrage dit de la Renaissance en français, qui est en Éthiopie et qui sera un barrage de la peut-être encore un peu plus important que le barrage d'Aswan, et que les Éthiopiens sont en train de construire. Alors voici ceci, cette photo date en fait de 2017. Et le barrage se construit depuis 2013. Et voici une photo plus récente. Le 19 février 2022, la première turbine de ce barrage a été mise en service. En juillet, la deuxième. Au total, une dizaine de turbines sont prévues. Donc, le lac de retenue derrière a commencé à bien se remplir. Beaucoup de chance, la mousson africaine, disons sur les 7 dernières années, il y a eu 5 bonnes années où ça a bien plu. Donc ça a permis de remplir le barrage de retenue tout en laissant en aval l'eau arriver jusqu'au Soudan, jusqu'en Égypte, mais ça a provoqué des tensions. Je tiens à préciser que ce barrage est construit par les Chinois, en béton. Rendez-vous dans 30 ans, je vous donne rendez-vous dans 30 ans, pour savoir si le barrage va bien résister d'ici là. Bon, croisons les doigts. Je tiens à préciser aussi que autour du lac de retenue, il y a des terrains qui vont être cultivés, et ce sont les Israéliens qui vont s'occuper de tout le projet agricole, et qui travaillent en parfaite intelligence avec les Chinois. Vous voyez, on peut s'affronter à l'ONU et puis localement trouver des terrains d'entente. C'est ça la géopolitique. Alors, ça provoque des tensions. Alors, pour ne pas vous gâcher le moral, je vais vous montrer un moment où tout le monde se faisait des risettes. Vous reconnaissez... Là, ici, c'était une réunion en 2015. Le président maréchal Al-Sisi, égyptien, encore en service. Là, vous avez l'Éthiopien, là, le Soudanais. Bon, l'histoire avançant là aussi, ils ont disparu, ils ont été remplacés par d'autres personnages. Mais ça provoque des tensions. Hein. D'ailleurs, Al-Sisi a menacé d'envoyer ses rafales, des rafales qu'on lui a vendues, survoler le barrage de la Renaissance. Bon, ça n'aurait pas fait de mal, parce que les rafales, c'est fait pour autre chose. Hein, mais enfin, c'est vous dire les tensions qu'il y a. Alors, le problème de l'eau, et c'est là où c'est tout à fait exemplaire et ça peut nous concerner, il y a d'autres ressources hydriques, véritablement, si je puis dire, eh bien, on peut diminuer les gaspillages, récupérer les eaux usées. Ben, vous savez que l'actualité, notre président, comme vous avez fait allusion, considère que c'est une tâche, effectivement, où l'on peut énormément s'améliorer en France. Récupération des eaux usées, il y a 15% des eaux usées qui sont récupérées. En Israël, c'est 70%. Hein. Ou de drainage, amélioration du réseau de distribution, on en a parlé aussi. En Égypte, quand on perd le tiers par fuite, par infiltration de l'eau qui circule dans les canalisations, on est content. Bon, en France, on fait un petit peu mieux. Et en France, bon, je pense que l'on en a pris conscience et que l'on va bien entretenir, mais ça demande des investissements énormes, hein, bien entretenir le réseau de distribution de l'eau. Meilleure pratique du quotidien. Alors là, il faut que je vous cite quelque chose. En Égypte, les Égyptiens considèrent que utiliser l'eau, c'est un don de Dieu, l'eau. Donc, d'une certaine façon, gaspiller l'eau, c'est honorer Dieu. Quand vous arrivez et vous dites, ben voilà, l'eau c'est précieux, il faudrait éviter de la gaspiller, en tant que mécréant, vous êtes totalement disqualifié. Même des ingénieurs agronomes se réfèrent à cet adage populaire, là. Gaspiller l'eau, c'est honorer Dieu. Bon. Et toutefois, il y a eu des expériences, et il y en a une que je trouve personnellement tout à fait intéressante. Un ministre de l'Agriculture, en 1995, a, sur le désert absolu, entre le Caire et le canal de Suez, planté des arbres et qui ont été arrosés par des eaux usées. Et ça a créé une forêt, enfin, une petite forêt, 200 hectares, d'eucalyptus et d'acajou. L'acajou, c'est une essence tout à fait précieuse, hein. Mais même l'eucalyptus peut être utilisé. C'est une vraie réussite, tellement que les ingénieurs agronomes israéliens sont venus voir comment avaient fait les Égyptiens. Il n'y a pas de meilleure, disons, reconnaissance, parce que quand on connaît la qualité des ingénieurs agronomes israéliens, c'est les meilleurs, hein, pour la culture en terra désertique, les meilleurs au monde, eh bien, là, les Égyptiens se sont fort bien débrouillés, mais, à ma connaissance, ça n'a pas fait l'objet de multiplication. Ça a été unique, alors que ça aurait pu, effectivement, se multiplier. Dans le Sahel africain, il y a création de forêts comme ça qui luttent assez bien contre la progression du Sahara. Bon, mais en Égypte, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Alors, d'autres sources d'approvisionnement, récupération des eaux de pluie, ce qu'on faisait dans l'Alexandrie de l'origine, on a un peu cessé de le faire, c'est dommage. Dessalement de l'eau de mer, je vais en reparler. Utilisation nappe phréatique, je vais en reparler aussi. Dessalement de l'eau de mer, voici une carte qui date un petit peu, j'ai de la peine à la réactualiser, mais voici l'importance du dessalement de l'eau de mer. L'Espagne et l'Algérie, ça ne se sait pas, sont des pays relativement en pointe. Israël aussi, bon, ça c'est assez normal, et l'Égypte. Mais regardez où sont les usines de dessalement d'eau de mer. Essentiellement sur le littoral de la mer Rouge et du golfe d'Aqaba d'ailleurs. Donc, pourquoi? Pour les piscines, des hôtels, des touristes. Alors, évidemment, ça rapporte économiquement un peu au pays quand les hôtels sont pleins, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y avait beaucoup d'Israël, il y avait beaucoup de Russes et d'Ukrainiens, hein, qui venaient dans ces hôtels. Bon, ben maintenant, pour des raisons que je vous laisse deviner, il y en a moins. Bon, c'est très particulier. Puis c'est très énergivore de dessaler l'eau de mer. Puis que fait-on du sel séparé de l'eau pour avoir de l'eau douce? On le remet dans la mer, localement, ce qui est un peu une aberration pour plein de raisons. Nappe phréatique. Alors là, il y a sous l'Égypte, la Libye, le Tchad, le Soudan, une nappe phréatique considérable. la surface de 5 fois l'Allemagne, l'épaisseur de 500 mètres à peu près, donc une quantité d'eau phénoménale sous terre, pas très très loin. Il se trouve que malheureusement, vous voyez, toute la zone rose, c'est de l'eau considérée comme douce, et toute la zone, alors c'est quoi, c'est vert, ça ? Jaune, pardon. Jaune, et c'est considéré comme saumâtre. Ceci explique pourquoi je vous ai dit que le delta du Nil, eh bien, se salinisait parce que c'est l'eau saumâtre de la nappe phréatique qui remonte. Alors, eh bien, les Égyptiens tapent dans cette nappe phréatique, et il faut bien savoir que c'est de l'eau fossile qui ne se renouvelle pas. Hein. Elle a déjà diminué de 60 cm en 10 ans. Bon, ça ne sera pas sans conséquence. Il se trouve que, là, je vous montre des monastères. Vous savez que l'Égypte est le pays où le monachisme a été créé, hein, au deuxième siècle de notre ère. Eh bien, les moines se sont établis là où les nappes phréatiques étaient peu profondes, facilement accessibles. Mais ce qu'ils puisent, eux, c'est tout à fait marginal, d'une part, et ils utilisent, eux, très parcimonieusement l'eau. Voici cette photo satellite. Les Égyptiens, avec beaucoup d'énergie, étendent le delta. La tache verte, d'année en année, s'étend. Hein ? Vous voyez, là, ici, on voit très clairement des nouveaux champs gagnés sur le désert. Eh bien, tous ces efforts compensent la perte due à la salinisation. Donc, il n'y a pas de gain. Tout simplement, on travaille pour... Et puis avec la salinisation, ça s'équilibre. Donc, c'est assez fâcheux. Par contre, on commence à voir, ce qui est assez fréquent du côté israélien, des fermes. Là, ici, vous voyez, il y a une production d'agrumes, où l'irrigation se fait au goutte à goutte, où là, cette fois-ci, de façon tout à fait moderne, il n'y a pas d'eau qui se perd, hein, véritablement. Traitement des eaux usées. Et là, l'Égypte comporte une très très grosse usine de traitement des eaux usées dans le Grand Caire, une des plus importantes d'Afrique, sinon du monde presque. Eh bien, il en faudrait deux autres. Une autre dans le Grand Caire, et une autre dans le Grand Alexandrie. Et là, malheureusement, il n'y a pas de projet, à ma connaissance, mais il faudra y venir pour récupérer toute cette eau. Regardez cette carte, elle est intéressante. D'abord parce que vous avez le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, de nouvelles vallées du Nil, donc vous l'oubliez, celui-ci. Mais là, vous avez un petit trait, appelé le canal al-Salam, le canal de la paix. Eh bien, tout simplement parce que Moubarak a envisagé un temps vendre de l'eau du Nil aux Israéliens, qui étaient très prêts à payer très très cher d'ailleurs. Donc, un canal qui venait de la branche la plus orientale du delta du Nil et puis apporter de l'eau jusqu'en Israël. Ça a fait un tel tollé chez les Égyptiens. Comment à nos amis ennemis égyptiens, on vend de l'eau du Nil, notre fleuve sacré, il n'en est pas question, ce qui fait que le projet a avorté. Mais avorté comment ? Eh bien, on a créé le canal, et regardez quand même une partie du canal, là, il passe sous le canal maritime de Suez, et vous avez des pompes aspirantes et offrantes, qui, là, ici, vous êtes du côté africain, et là, je pense, du côté Sinaï, et ça s'arrête brutalement à 40 km de la frontière. Moubarak n'a pas osé aller plus loin. Bon, ça permet quand même d'irriguer et de rendre cultivables des surfaces non négligeables du nord du Sinaï. Donc, ce n'est pas totalement perdu, cette eau. Vous savez que je m'avance peut-être un petit peu trop, mais le président Al-Sisi veut créer, à l'heure actuelle, une nouvelle capitale pour l'Égypte, entre le Caire et le canal de Suez, à une quarantaine de kilomètres du Caire, en plein désert. Alors, j'ai vu les projets de cette ville, et puis j'ai cherché comment on l'alimentait en eau, parce qu'il était prévu deux terrains de golf, des piscines, etc. Et 6,5 millions d'habitants. Donc, ça suppose une alimentation en eau énorme. Effectivement, on est en train, c'est pas encore fait. Voyez cette photo, ce qui montre que la capitale est quand même déjà assez avancée. Hein. Tout le gouvernement va s'installer là. Vous avez des canalisations assez énormes qui sont prévues pour alimenter cette future capitale. Ça va être puisé dans le Nil. Ça ne va donc pas aller dans le delta. Je ne sais pas trop quelles conséquences ça va avoir, mais c'est le parfait projet volontariste où les conséquences ne sont pas trop étudiées, pour ne pas dire mis sous le tapis. Hein. Bien, alors j'en arrive à mon bilan. Officiellement, l'Égypte, c'est des accords internationaux, dispose de 55 milliards de mètres cubes par an. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, bon, 55 milliards de mètres cubes par an apportés par le Nil. C'est le type de chiffre que l'on regarde avec une certaine, un certain étonnement, parce que quel que soit le début du Nil, l'Égypte a droit à 55 milliards de mètres cubes. Bon, pourquoi pas, hein. Et alors, on considère que l'on perd à peu près, évaporation et infiltration, à peu près 13 milliards, un peu plus même, de mètres cubes. On arrive à économiser 13 milliards de mètres cubes. Donc tous les efforts pour économiser, ça ne fait que compenser ce que l'on perd. Hein, n'est-ce pas? Et puis, l'apport de la nappe phréatique, là encore, officiellement, 4 milliards de mètres cubes. Le Soudan a une part aussi, puis la Méditerranée a une part, 10 milliards de mètres cubes. En fait, en réalité, d'abord la Méditerranée ne proteste pas, donc elle ne reçoit pas 10 milliards de mètres cubes, 7 milliards au maximum. L'apport phréatique, je suis prêt à parier, évidemment, là j'ai peut-être tort de m'avancer, mais l'Égypte puise un peu plus dans la nappe phréatique qu'elle le laisse entendre. Ce sont tout à fait des chiffres officiels que vous pouvez prendre avec un certain doute, hein, n'est-ce pas? Alors, les bienfaits du haut barrage. Il y en a eu au départ. Au départ, ça a même été l'euphorie, parce que augmentation de la production agricole, il y a eu jusqu'à 4 récoltes par an localement. Ça a été vraiment la liesse populaire, parce que on a pu produire peu de temps après le haut barrage. Mais on a épuisé les terres. Et comme je l'ai dit, le limon ne se repose plus. Je ne vais pas me répéter, mais maintenant, nécessité d'engrais. Hein. Évitement de crues catastrophiques, ça par contre, c'est un bilan tout à fait à mettre au crédit du barrage. Tous les 10 ans en moyenne, il y avait une crue catastrophique. Maintenant, il n'y en a plus. Le barrage a été terminé en 1970. En 1972, il y avait une crue terrible, qui aurait dû être terrible. Elle n'a pas eu de conséquences néfastes pour l'Égypte. Bon, mais c'est une déception. Alors là, je ne vais pas me répéter, donc je le dis assez rapidement. Production d'électricité décevante, épuisement des sols, projet de nouvelles vallées très décevantes. Vous voyez que je suis très diplomate, hein. Je dis très décevant. Seulement, gaspillage de l'eau, delta fragilisé. Quand vous faites, donc, vous savez, très classiquement, la double colonne pour faire un bilan, le côté positif, le côté négatif, je vous laisse deviner ce qui, désormais, l'emporte et va l'emporter de plus en plus. L'évolution n'est pas bonne. Et puis, ceci. En 1960, il y avait 27 millions d'Égyptiens. Lorsque nous y étions dans les débuts des années 80, il y en avait 42 millions. En 2020, 100 millions. On pense, à l'heure actuelle, que c'est 2 millions de plus par an. C'est énorme. Vous connaissez le théorème du gâteau? C'est moi qui le baptise comme ça. Mais voilà, vous avez fait un gâteau parce que vous attendez des convives. Bon, très bien. Et puis, il y a des convives qui arrivent de façon impromptue. Vous n'avez pas le temps de faire un nouveau gâteau. Que faire? Vous diminuez les parts. C'est exactement ce qui se passe. On a une quantité d'eau qui ne va pas augmenter si déjà elle ne diminue pas. Et puis, vous avez davantage de gens. Donc, oui, ça, c'est une autre histoire, mais à mon avis, c'est le gros problème. Eh bien, Manifestement, les Égyptiens sont en état de stress hydrique, au sens onusien du terme, absolu. Vous savez qu'à l'heure actuelle, et notre président, je crois, l'a rappelé, 2 milliards de personnes sont concernées dans le monde. Les Égyptiens en font tous partie. Alors, venons un petit peu à nous. Nous, voici une statistique, ce que nous dépensons au quotidien, en pourcentage. Bain, douche, près de 40%. Allez, les WC, pas rien. Regardez, l'eau potable, quelles sont les rubriques où l'eau potable est absolument indispensable? À la boisson, oui, 1%. Oh, la cuisine, oui, plutôt. Quoi qu'on pourrait même faire bouillir l'eau, mais enfin, bref, de l'eau potable. 7%. Et le reste? Le reste, de l'eau correcte, mais peut-être pas avec notre exigence de pureté, de qualité absolue que nous avons, c'est sans doute excessif. Et, à mon avis, on ira vraisemblablement, je ne suis pas le seul à le dire, des experts beaucoup plus qualifiés que moi le disent, mais on ira vers une double distribution d'eau, une distribution relativement restreinte avec des robinets pour l'eau potable de la meilleure qualité qui soit, qui évidemment se paiera un peu plus cher, quand je dis un peu, mettez quelques guillemets, et puis de l'eau de qualité convenable, mais qui n'a pas besoin d'un traitement aussi rigoureux que la précédente pour tout le reste. J'arrive à ma conclusion. Citons Boutros Boutros-Ghali, qui a longtemps été ministre des Affaires étrangères en Égypte, un temps secrétaire général des Nations Unies, même secrétaire général de la francophonie, grand monsieur, qui a dit en 1985 « La prochaine guerre dans notre région sera livrée pour l'eau ». Pour le moment, il a tort. Je me garderai bien de préjuger de l'avenir. Mais des tensions existent, évidemment, ne serait-ce qu'entre Israël et ses voisins, la Jordanie et la Syrie. Regardez le Jourdain. Le Jourdain est devenu un tout petit, peut-être ruisselé, parce que les Israéliens puisent de l'eau dans ce fleuve pour irriguer leurs terres. Les Israéliens se sont emparés du plateau du Golan. Évidemment, ça permet de mettre Damas à portée de canon, mais c'est un château d'eau local. Et pour les Israéliens, c'est tout à fait important. C'est une lecture des cartes du Proche-Orient. Regardez, pour ne pas m'éloigner trop de la région, des barrages, je n'ai mis que les principaux, sur les deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Ils naissent en Turquie. Et là, vous avez une accumulation de barrages, dont le barrage d'Atatürk, qui est un barrage tout à fait important, que le président Erdogan a fait construire depuis 20-25 ans, et qui retiennent beaucoup d'eau. Les Syriens et les Irakiens, à l'heure actuelle, ne protestent pas parce que vous connaissez l'état politique de la Syrie et de l'Irak. Mais le résultat est le suivant. Toute cette région, la Mésopotamie, qui dans l'Antiquité, c'était l'image du Jardin d'Éden, est devenue quasiment désertique. On ne cultive presque plus dans cette région. Donc c'est absolument dramatique. Je pourrais, je pourrais poursuivre en vous parlant, par exemple, de la Chine, de l'Inde, de la Californie, pour une raison totalement différente. Mais voilà des pays ou des États où le problème de l'eau se pose avec une très très grande acuité. Mais me lancer dans tout ça, ça serait débordé. Et quand on parle d'un barrage et que l'on risque de déborder, ça peut se révéler dangereux. Donc, merci pour votre patiente attention.
Bon. Eh bien, on vous a suivi avec beaucoup d'intérêt. Nous avons été très attentifs, reconnaissons.
Oh là là, oui, oui, formidable.
Est-ce
oui.
que vous avez vu quelqu'un dormir?
Non.
Ah, c'est bien. Non, pendant le repas, il nous avait dit que parfois, et juste devant, il y en avait qui dormaient, qui même ronflaient. Nous ne l'avons pas fait. nous avons été très attentifs. Nous vous remercions beaucoup de la qualité de votre conférence, mais je vous fais remarquer que...
J'étais trop bavard une fois de plus.
Je dirais pas bavard, puisque c'était intéressant, donc vous n'avez pas été bavard. Mais ça mérite qu'on ne retienne pas trop longtemps les gens parmi nous, donc je prendrai une seule question, s'il y en a une. Une question pertinente, bien sûr. Avez-vous une question pertinente?
Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle.
Non, Mireille, tu n'auras pas. Non. Tu as droit à une question de temps. Est-ce qu'il y en a une? Ah non, il n'y en a pas.
Non.
Il n'y en a pas. Bon, alors Mireille, une question en trois mots.
Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si avant qu'il y ait des barrages installés sur le Nil, combien de kilomètres étaient inondés de part et d'autre du Nil dans les crues les plus importantes, s'il vous plaît.
Là, tu l'as fait remonter à l'Antiquité, là.
Oui, d'abord, c'est très très variable. Alors, je ne sais pas si vos kilomètres, je dois les envisager dans la longueur ou dans la largeur. Alors, si c'est dans la largeur, si c'est dans la longueur, ça fait 1200 kilomètres à peu près d'Assouan au littoral. Mais si c'est dans la largeur, c'est extrêmement variable, ça dépend du relief. Alors là, donc ça peut aller 10 kilomètres jusqu'à 20 mètres. C'est extrêmement variable. Extrêmement variable. C'est globalement que l'on évalue ça plutôt que localement.
Eh bien, merci beaucoup. Encore merci.
Voilà.
À une